Depuis les années 60, dans les grandes villes du monde entier, les murs ont la parole. Tags, pochoirs, graffitis, affiches ou grandes fresques, l'art urbain se décline sous toutes ses formes et couvre les murs de couleurs. Contrairement à la publicité, l'art urbain n'a rien à vendre. Et à la différence de l'art public réalisé sur commande, il s'est longtemps passé d'autorisation pour s'exercer en toute liberté. L'ambition de ces auteurs ? Mettre l'art à portée de tous et donner vie aux rues de la ville. À moins qu'il ne s'agisse de pousser un grand cri de révolte. L'art urbain prend des formes si variées qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il est un mouvement artistique comme l'impressionnisme ou le cubisme. Entre les graffitis peints sur les trains et aux abords des voies ferrées, les affiches collées dans les rues par Ernest Pignon Ernest, les pochoirs de Banksy et les grandes œuvres murales créées dans certains quartiers, on trouve un point commun, leur inscription dans un espace, la rue, qui n'est pas fait a priori pour exposer des œuvres d'art. Mais alors, comment définir l'art urbain? Tout d'abord, rappelons que l'art urbain a dû se battre pour exister. Les artistes qui ont embrassé la ville comme lieu de création ont longtemps œuvré dans l'ombre en protégeant leur identité sous toutes sortes de masques et de pseudonymes. Parce qu'il est interdit de tracer des signes et des dessins dans l'espace public sans autorisation, ils ont vu leurs œuvres disparaître en quelques jours ou en quelques mois. L'art urbain est souvent éphémère. Quand il n'est pas effacé par les services de nettoyage, il est exposé à la pluie, au soleil et aux gestes des passants. C'est aussi un art modeste qui utilise des outils bon marché. Il s'inspire des cultures populaires, du cinéma, de la bande dessinée, de la télévision. Malgré ces contraintes, l'art urbain a su se faire une place dans les villes et même au-delà. Aujourd'hui, il est exposé dans les musées et les galeries d'art, célébré dans la presse, soutenu par les élus, les promoteurs et les bailleurs. Nous tenterons de comprendre comment une pratique illégale et frondeuse est devenue au fil des décennies une expression majeure de notre époque. Pour cela, nous vous invitons d'abord à New York. Nous sommes à la fin des années 60 et la ville est en pleine transformation. Ses usines ferment, ses classes moyennes vont vivre en banlieue et la jeunesse fait souffler dans ses rues un vent de révolte. C'est dans ce contexte que naît le graffiti writing. Au cours des années 70, des adolescents des quartiers pauvres de New York recouvrent les murs puis les métros de la ville de noms, ou plutôt de pseudonymes. Ils s'appellent Taki 183, Julio 204, Supercool 223, Stay High 149. Ensemble, ils développent une véritable école de la lettre. Pour se démarquer, ils tracent au marqueur ou à la bombe à aérosol des lettres de plus en plus grandes et colorées. Ils varient aussi les styles, parfois de simples signatures, les tags. Leurs œuvres sont aussi créées à grande échelle et ornées de dessins et de motifs. Certains, comme Phase 2, Sin, Futura 2000 ou Dondi, deviennent de véritables kings, des rois du lettrage. Ces writers forment une communauté secrète organisée en crew autour de règles non écrites. Leur support préféré est le métro, car il offre de grandes surfaces à peindre et ils circulent d'un bout à l'autre de la ville. Pour eux, c'est aussi une manière de sortir des quartiers où sévissent la pauvreté et la violence des gangs. Pour les autorités, au contraire, le graffiti est vu comme sale et dangereux. Plus le phénomène prolifère, plus la répression durcit. Des campagnes d'affichage, des brigades anti-graffiti et des opérations de nettoyage sont mises en place pour le faire disparaître. Mais le graffiti commence à être célébré dans la presse et s'expose bientôt dans certaines galeries d'art. Au début des années 80, une poignée de livres et de films contribue à diffuser le graffiti hors de New York. À cette époque, le phénomène débarque en Europe avec le rap, le breakdance et toutes les composantes du mouvement hip-hop. Il devient bientôt une discipline à la portée de tous et va changer en profondeur le visage des villes. Si bien qu'aujourd'hui, le mot graffiti semble avant tout désigner cette esthétique particulière, faite de lettres dessinées à main levée et reconnaissables au premier coup d'œil. Pourtant, il existait un graffiti avant le graffiti. On peut même dire que le fait de tracer des lettres ou des dessins sur les murs sans demander la permission est aussi vieux que l'humanité. La pratique est d'ailleurs étudiée avec intérêt par les archéologues et les historiens qui trouvent dans les graffitis des témoins précieux du passé. Le graffiti a aussi intéressé les surréalistes et l'art brut. Pour Brassailles, qui le photographie pendant plus de 30 ans, il est l'instinct de survie de tout ce qui ne peuvent dresser pyramides et cathédrales pour laisser leur nom à la postérité. Ce qui plaît dans le graffiti, c'est qu'il est à la portée de tous, et pas seulement des artistes professionnels. Il étend le territoire de l'art et l'ouvre aux pratiques populaires, aux genres mineurs.